Voilà. Alors, c'était mon introduction. J'en arrive à maintenant à la première partie de ce cours sur Lévinas que j'ai intitulé L'amour n'est pas tout. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, justement, critiquer l'amour, l'amour, c'est pas ce qui vient former un tout. L'amour n'est pas tout. Et l'ambiguïté d'une union dans la séparation. Je veux partir du Lévinas de l'éros parce que le premier Lévinas n'est pas le Lévinas de l'éthique, c'est le Lévinas de l'éros. Et qu'on va retrouver dans ses œuvres qui vont aller vers justement la question de l'éthique comme philosophique première, comme étant la vraie métaphysique. Comme étant au-delà de la métaphysique. Lévinas, comme on l'a vu pour ceux qui ont assisté à la conférence de Marc-Alain Wachnin hier soir, Lévinas aimait beaucoup les jeunes filles. Il était sensible à la beauté des femmes. Il a d'ailleurs épousé sa voisine. Bon. Avec une fidélité extraordinaire. Mais Lévinas, quand il va être prisonnier en Allemagne pendant la guerre, il va tenir un carnet, ce qu'on appelle les carnets de captivité, qui ont été édités assez récemment. Et on se rend compte qu'il lit un auteur catholique qui va être pour lui, comme pour moi, une commotion profonde. Et même il dit qu'il faudrait porter le judaïsme au point d'incandescence, comme cet auteur-là a porté le christianisme à son point d'incandescence. Il y a une phrase incroyable, enfin, je ne sais pas la phrase exacte, mais je vous le dis de tête. C'est pour dire qu'il avait un rapport à cet auteur assez étonnant. Et alors, vous ne pourriez pas l'imaginer, qui c'est? Eh bien, c'est Léon Blois. Lévinas est un lecteur de Léon Blois, ça n'est quasiment jamais dit, mais si vous lisez les carnets de captivité, il recopie des pages entières de Léon Blois. Et bien sûr, chez Léon Blois, il y a deux thèmes fondamentaux qu'on va retrouver chez Lévinas, la femme et la pauvreté. Un texte qui va être vraiment déterminant pour Lévinas, c'est un texte qui n'a pas été republié pendant très longtemps de Blois, ce sont les lettres à sa fiancée. Texte proprement incroyable, qui est un des textes les plus singuliers de la littérature universelle. Donc une correspondance amoureuse. Mais une correspondance amoureuse où la fiancée apparaît comme la nécessité la plus contingente, celle qu'on rencontre, qu'on aurait pu ne pas rencontrer, mais quand on la rencontre, on sent qu'il y a un mystère qui nous dépasse et qui une nécessité divine de la providence. Voyez. Ça aurait pu ne pas avoir lieu et en même temps, on se dit que ça ne pouvait pas être autrement. Vous voyez, c'est très paradoxal le moment de la rencontre amoureuse. Et donc le fait que nous sommes quand on aime quelqu'un, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est pris dans une trame qui nous dépasse, dans un mystère, qu'on ne peut pas réduire à notre utilité, qu'on ne peut pas réduire à notre plaisir, qu'on ne peut pas réduire à notre... Donc le rapport à l'autre femme comme rapport à l'infini de Dieu, c'est quelque chose que Lévinas... voit aussi, pas seulement dans la Bible, mais dans les lettres de Léon Blois à sa fiancée, Jeanne Molbech. Voilà, donc ça c'est un point très important. Dès lors, la pensée de Lévinas va d'abord être une pensée de la relation homme-femme, une pensée de la sexualité, une pensée du sexe. Voilà un passage des carnets de captivité qui à la fois montre la continuité avec Platon, il veut penser Eros, mais en même temps, l'écart qu'il va y avoir avec Platon. Il dit, voilà la notion centrale chez lui. Depuis Platon, amour vient de l'union de Poros et Peña. Vous savez, hein, Poros, c'est celui qui trouve une issue, comme son nom l'indique. On l'appelle expédient. Et puis Peña, la pauvreté, le manque, le dénuement, la pénurie. C'est là que vient le mot. Poros, c'est ce qui donne les pores de la peau quand ça s'ouvre. C'est une issue. Et Peña, ça donne la pénurie. C'est très intéressant parce que vous savez, ce mythe de la naissance d'Eros à partir de l'union de Poros et Peña correspond à une phénoménologie de l'amour. C'est-à-dire, dans l'amour, je suis à la fois en manque, en souffrance, le plus démuni, et en même temps, je deviens inventif. Et ce mélange de dénuement et de ressources qu'il y a dans l'amour, qui fait que l'amour n'est pas simplement ressource, elle est aussi dénuement, mais n'est pas que dénuement, c'est aussi une créativité qui est en jeu. Hein. Pour déclarer sa flamme, eh bien voilà, on va user de stratagèmes pour retrouver celle qu'on aime, etc. Bah, tout cela, vous voyez, ça décrit bien ce qui est en jeu, l'ambivalence, vous voyez, des pouvoirs de l'amour. À la fois, on perd ses moyens, on n'en peut plus, et en même temps, à l'intérieur de cette perte de moyens, on va inventer des moyens, on va découvrir des ressources dont on ne se croyait pas capable. Voilà la vision de Platon. Hein. Mais voilà ce que va dire Lévinas, dans l'amour, besoin et pauvreté. Dans ces conditions, on ne comprend pas la notion de sexe. Elle reste notion physiologique. Chez Platon, dans sa théorie de l'amour, elle est d'ailleurs subsidiaire. Effectivement, ce n'est pas la notion de sexe qui est essentielle chez Platon, puisque cet amour peut être entre deux personnes du même sexe. Donc, vous voyez, c'est subsidiaire. C'est un éros qui passe entre Socrate et Alcibiade. Donc, vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne peut pas se réaliser dans la chair. C'est pour ça qu'il va être un éros qui exige de dépasser une dialectique qui va monter, qui va remonter vers des choses de plus en plus intelligibles. Vous savez que Platon est un grand critique de la pédérastie. Hein. Il n'en a jamais fait la défense. Il s'en moque d'ailleurs beaucoup dans Le Banquet, etc. Mais c'est vrai que l'éros, pour lui, c'est d'abord entre un homme mûr, fait, vous voyez, et puis un jeune homme. Et imaginez moi et Jean Faure, par exemple, je pense, parce que c'est lui qui ressemblerait à un... Ou jeune et faible, il est suffisamment petit pour compenser le manque d'écart d'âge. Et alors, voyez, je vois Jean, je vois qu'il y a quelque chose de splendide chez lui, une beauté, il est là... Mais, voyez... Non, mais juste, j'aurais juste vous faire comprendre ça, parce qu'il ne faut pas que vous soyez bourrin à ce point que vous ne puissiez pas comprendre, par exemple, qu'un homme puisse être ému par la beauté d'un autre homme. Ça, c'est très important. Au moins, les Grecs nous ont appris ça. Mais ce que va apprendre... je ne suis pas en train de décrire notre relation. Hein, même si je suis ému par vous, Jean, hein, je ne sais pas ce que je veux dire non plus. Hein, bon. Mais ouais, je suis devant Jean... voilà qu'il y a quelque chose. Je pourrais croire, et c'est ce que vont croire certains Grecs, c'est pour ça qu'on dit souvent d'aller se faire voir chez eux, c'est que cette chose-là va impliquer le sexe. Et Platon dit non, parce que si ça implique le sexe, on voit bien que c'est contre nature. Donc ce que tu as entrevu dans la beauté du jeune homme, ça renvoie à quelque chose qui est d'ordre, qui dépasse, vous voyez, l'ordre naturel de l'union sexuelle, etc. Donc, ce n'est pas le sexe qui intéresse Platon, même s'il fera des références au sexe. Hein. Par ailleurs, bon, ça, mais ça, je ne vais pas vous faire un cours sur Platon, ça nous prendrait plusieurs semaines. Mais, au moins, Mais ce qui est intéressant, c'est que Platon pense l'éros en dehors du sexe, alors que Lévinas va penser l'éros avec le sexe. Mais si vous le pensez avec le sexe, alors vous devez abandonner la pensée du sexe comme liée à la structure manque, besoin et satisfaction. La sexualité, chez Lévinas, n'est pas de l'ordre du besoin, mais du désir. Le désir ne s'achève pas, si vous voulez, dans une satisfaction. D'après Lévinas, hein, c'est une conception très moderne du désir. Donc, si vous êtes dans une structure manque, besoin, et le fait que la rencontre de l'autre, la femme, vient combler un manque, voyez, de quoi s'agit-il? Vous n'êtes plus tourné vers l'autre en tant qu'autre, puisque l'autre n'est que la pièce manquante, vous voyez, qui vient fermer le creux qu'il y avait en vous. Donc vous avez rencontré votre moitié, et à vos deux moitiés, complémentaires, à un grand discours de l'Église, parfois, hélas, la complémentarité homme-femme, complémentaires, vous voyez, vous mettez les deux moitiés ensemble et vous formez un tout. Vous voyez, vous formez un tout. Et donc là encore, l'idée, ce n'est pas d'être finalement toi et moi de manière irréductible, c'est le tout que nous allons former. Sans séparation, sans incompréhension. Cette pensée de la complémentarité, ce n'est pas la fusion au sens où on se mélangerait, mais c'est du moins quelque chose qui ressemble à une fusion parce qu'on se complète. Je voudrais juste vous faire remarquer à l'idée que l'homme et la femme se complètent, d'ailleurs, hein, l'un l'autre, ce qui n'est pas entièrement faux, hein, attention, hein, je ne suis pas en train de dire. De la même façon qu'il n'est pas faux de remarquer que dans la sexualité, il y a aussi une dimension de besoin. Mais quand je parle de besoin et de complémentarité, je passe à côté de ce qui fait l'essence de la sexualité. Son essence la plus profonde. C'est pas, vous savez, vous avez plusieurs manières de penser la relation des sexes. Vous pouvez penser en termes de rivalité, et ce n'est pas faux. Il y a aussi une rivalité homme-femme en tant que ce sont des individus. Il y a aussi une certaine complémentarité homme-femme. Mais vous remarquerez que cette complémentarité, elle a ce côté un peu fonctionnel. C'est-à-dire, oui, ils sont complémentaires pour faire des enfants ou pour gérer la maison, d'accord? Mais vous passez à côté encore de ce qu'il y a de plus profond, qui est le fait qu'il y a l'un et l'autre, et que l'un reste toujours autre que l'autre, l'autre autre que l'un. Le fait que l'homme est homme et que la femme est femme, toujours, sans que le féminin passe dans le masculin, ni le masculin dans le féminin, vous comprenez? Il y a cette séparation des sexes. Le secus, la section du sexe, séparation, c'est de là que vient le mot même latin. Hein. Et vous le savez pourquoi ce terme de séparation va être si important chez Lévinas, tellement oublié par toute une théologie catholique parce qu'elle est tellement obnubilée par des images grecques de participation, d'union, de... Mais Dieu crée en séparant. Vous lisez la Genèse, le mot décisif, le verbe décisif, c'est « il sépara ». Dieu dit, voilà, et il sépare la lumière et les ténèbres. Et toute la Genèse, c'est une série de séparations qui sont de plus en plus, on pourrait dire, intenses. De plus en plus profond, de plus en plus proche de Dieu, comme transcendant, manifestant aussi une transcendance des créatures entre elles, voyez. Première chose, séparation de la lumière et des ténèbres, séparation ensuite des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, séparation des luminaires pour le jour, des luminaires pour la nuit, séparation des oiseaux et des poissons, à l'intérieur, ou des séparations des plantes, selon leurs espèces, des oiseaux et des poissons, séparation très nette, et puis dernier jour, séparation, bien sûr, des mammifères, hein, selon leur espèce, des quadrupèdes, pardon, selon leur espèce, et les bestioles qui rampent sur la terre, puis, voilà qu'il y a l'homme et la femme, et séparation du mâle et de la femelle. De telle sorte que, entre l'homme et la femme, c'est une séparation qui couronne, mais qui aussi est plus profonde que le jour et la nuit, que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, que la carpe et le hareng, que l'oursin et le kangourou, que l'oiseau et le poisson. Voilà. C'est incroyable.
C'est comme dans une chanson.
Voilà, exactement. Ah ben, je suis profondément marqué par cette idée-là, oui. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre cette notion de séparation ici, qui est vraiment une notion fondamentale et qu'on a perdu de vue.